Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour, bienvenue dans Tech & Co Business. Il va beaucoup être question d'intelligence artificielle aujourd'hui pendant une heure. Alors l'intelligence artificielle, vous savez, c'est devenu une verticale chez BFM avec un site digital, des émissions et beaucoup de choses encore sur le digital, dans l'époque, les podcasts, les replays. Et puis justement, une fois par mois, eh bien Tech & Co Business se transformera en business AI. On parlera uniquement d'intelligence artificielle. Mais on va en parler beaucoup déjà aujourd'hui. Vous savez qu'elle est déjà présente dans l'éco-rénovation et vous allez voir ça avec l'utilisation de ChatGPT. On verra comment le service public aussi s'approprie l'IA. On parlera aussi de l'IA au service de la cybersécurité. Comment faire de l'IA générative également un accélérateur de business, ce sera avec tous nos invités dans le débat. Et puis, on parlera aussi de l'intelligence comportementale. Voilà, ce sont tous nos sujets, très intelligence artificielle. Restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Et on démarre avec notre invité, Christophe Chalvin. Bonjour. Christophe,
bonjour,
vous êtes directeur du Lab Acorus. Alors Acorus, c'est une ETI française spécialisée justement dans l'éco-rénovation. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler de ChatGPT, parce qu'il y a pas mal de vos collaborateurs chez Acorus qui commencent à utiliser ChatGPT, qui l'ont carrément intégré dans leur métier. Juste un mot, parce que c'est un métier dont on ne parle pas souvent ici. L'éco-rénovation, ça concerne, on regarde des vieux bâtiments et puis on rentre et on rénove un peu, voilà, on remet un peu aux normes en vigueur.
Tout à fait. Chez Acorus, on fait de la rénovation, que de la rénovation. Et quand on fait ça, on va avoir deux priorités. La première, c'est de s'intéresser avant tout à l'occupant, à l'usager du bâtiment pour son bien-être après la rénovation. Et la deuxième préoccupation, ça va être de limiter l'impact carbone du bâtiment après notre intervention. Ça va être par la rénovation du chauffage, l'isolation du bâtiment.
Et alors, Christophe, chez vous, donc ChatGPT est arrivé, alors, comme tout le monde a déboulé dans toutes les entreprises ou chez chacun, parce que c'est vrai qu'on l'a même utilisé évidemment beaucoup à titre personnel, donc dans votre entreprise. Alors, comment c'est arrivé? Parce qu'au départ, ça a dû être un peu anarchique. Et puis, peu à peu, voilà, on essaie d'organiser les choses.
Oui, absolument. Alors, on a la chance chez Acorus donc, d'avoir ce lab qui existe depuis quasiment maintenant 10 ans, qui fabrique les outils digitaux de l'entreprise, comme si un menuisier fabriquait ses outils.
Donc, depuis la transformation numérique, vous regardiez un peu tout ce qui passait à proximité.
Et donc, un peu avant l'été 2023, on a senti que ça commençait vraiment à bouger côté usage, même en interne. Et donc, la première étape, ça a été de regarder ce qui se faisait, d'aller voir les utilisateurs, et ça a été d'autant plus facile que le président d'Acorus, Philippe Banquet, a lui-même expliqué que, dans certains cas, pour ses posts LinkedIn ou pour écrire des documents, il se faisait aider de ChatGPT.
Tout le monde se l'était déjà un peu approprié par rapport à son métier. Un dirigeant, tout le monde, quelques collaborateurs se l'étaient approprié. Ça allait du PDG pour ses posts LinkedIn à certains pour regardant une façade, dire quel type de façade je dois mettre quand c'est une telle exposition et tout ça. Quelques métiers s'y ont mis.
Des métiers très différents. Ça peut être le service achat qui a besoin de regarder dans les données les achats d'une équipe ou les achats par rapport à un fournisseur. Ils ne sont pas très forts en SQL, ce ne sont pas des développeurs. Donc, ils vont se faire aider de ChatGPT pour corriger leurs requêtes SQL. Ça peut être les équipes du bureau d'études qui sont extrêmement techniques, mais qui, au bout d'un moment, tournent un peu en rond sur la façon d'expliquer certains modes opératoires. Ça va leur permettre de trouver une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de structurer, pourquoi pas, leur proposition. Et puis, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui est un peu en panne d'inspiration pour écrire un mail un peu plus compliqué. Et ChatGPT va aider à structurer ce document qui est envoyé à un client, par exemple.
Et alors, au début, on était tous dans l'enthousiasme, dans l'euphorie un peu de ce nouvel assistant. Et puis, peu à peu, on se rend compte quand même, alors, au-delà de l'effet hallucination, parce qu'il continue à y en avoir, mais il y en a quand même de moins en moins, c'est la partie data. Parce que j'imagine, je reprends l'exemple de votre PDG, il se dit tiens, je vais partager sur mon post LinkedIn les résultats de l'entreprise, où vont ces données. J'imagine que c'est là le premier apprentissage, la première règle, c'était de dire attention, allons continuer, mais il faut commencer à réguler tout ça.
Ouais, absolument, vous avez raison. On a fourni un nouvel outil d'une certaine façon à nos équipes, et donc de la même façon qu'on n'irait pas leur donner une scie circulaire sans leur donner les chaussures de sécurité et les gants, et bien là on a fait une phase de formation. Après cette première phase où on a fait un audit de ce qui se se faisait dans l'entreprise. Ça nous a permis de construire une formation ad hoc pour près de 140 managers de l'entreprise.
C'est 140 collaborateurs qui sont formés à des cas d'usage et 50 salariés qui l'utilisent l'IA vraiment dans leur mission quotidienne.
Absolument. Et donc sur ChatGPT, on a effectivement rappelé qu'il ne fallait pas raconter ce qu'on ne raconterait pas à n'importe qui sur Internet, ce qu'on n'irait pas poster sur n'importe quel réseau social. Donc il faut être assez prudent. Maintenant, on a rappelé qu'il ne fallait pas poster un numéro de mobile, des coordonnées d'un locataire, des coordonnées d'un client. Peu d'informations qui mettent en danger la sécurité de l'entreprise.
Mais il y avait quand même quelques règles à rappeler. Vous parlez de formation, alors vous parliez de votre PDG, donc au sein de le Lab Acorus, qui regarde toutes ces innovations digitales. J'imagine que il y a des experts tech, data analystes qu'il a fallu former. Ceinture noire, troisième dan. Et puis les autres, c'est ceinture verte, ceinture orange. Si je fais le parallèle avec le judo.
Voilà, absolument. Alors après cette première étape de formation, on a aussi constitué une équipe de ce qu'on a appelé des coachs ChatGPT, qui sont pas issus du tout du lab, mais qui sont des utilisateurs, un petit peu plus avancés, qui l'utilisent plus régulièrement, qui échangent entre eux des idées de prompt, des façons d'utiliser. Ah bah tiens, j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle option dans ChatGPT, est-ce que vous la connaissez, etc. Donc ça va permettre de gagner en expertise. Et puis ils sont aussi des référents pour leurs collègues qui peuvent venir les voir en leur disant tiens, il paraît que tu t'y connais en ChatGPT, comment ça marche, est-ce que tu peux m'expliquer. Donc ça permet d'avoir un effet démultiplicateur sur cette formation initiale.
Du coup, vous êtes passé à la version payante de ChatGPT.
Alors certains effectivement sont sur la version payante.
Et est-ce que vous avez déjà commencer à évaluer les gains de productivité
C'est encore un peu tôt. Par contre, on a utilisé d'autres outils d'IA que ChatGPT. Oui. On a par exemple entraîné un moteur pour la saisie de nos commandes. D'accord. On a une action qui est assez massive chez Acorus. On fait plus de 15 000 interventions tous les mois et donc ça correspond à 15 000 commandes qu'on reçoit. Et donc pour gagner du temps, on a entraîner une intelligence artificielle qui nous aide à saisir ces 15 000 bons de commande. Et donc là, on sait que ça réduit d'un facteur 2 à 3 le temps passé par nos assistantes commerciales à la saisie de ces commandes. Ça leur permet de passer moins de temps avec leur PC et plus de temps avec leurs collègues, avec nos clients au téléphone pour faire des tâches qui sont beaucoup plus valorisantes, qui portent beaucoup plus de valeur.
Aujourd'hui, avec le recul, Christophe Chalvin, vous diriez quoi comme bonne pratique? Quelqu'un qui nous écoute, qui se dit tiens, moi, j'essaie un peu de retenir, pas de brider parce que c'est pas le but, mais j'aimerais que les gens l'utilisent, mais leur faire penser, c'est vrai, ce que vous dites, ne va pas faire sur Internet, ne va pas faire sur ChatGPT ce que tu ne ferais pas ailleurs sur Internet ou en dehors de chez toi. C'est une première règle un peu basique, mais de bon sens.
Nous, ce qui a fait notre succès, c'est vraiment de partir des besoins du terrain, des besoins des équipes, et ensuite de montrer, non pas via une formation théorique ce qu'est ChatGPT, mais vraiment en montrant à nos 140 managers qu'on a formés ce que faisaient leurs collègues. Mmh. Et à partir de là, c'est très concret. Et on démystifie un peu ce côté peut-être parfois un peu angoissant ou complexe de l'IA. Si mon collègue qui est assis à trois bureaux de là l'utilise pour gagner du temps, je peux très probablement moi aussi m'en servir de façon intelligente.
Et aujourd'hui, avec l'apprentissage que vous avez fait, vous êtes capable, ce que vous avez dit à l'instant, d'aller chercher d'autres moteurs que ChatGPT. Vous allez en tester d'autres parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ChatGPT répond à certains besoins. Peut-être que Gemini a d'autres, peut-être que le moteur de Mistral aussi a d'autres. Vous êtes capable d'évaluer un peu selon.
Tout à fait. Ça nous a permis, à la fois au Lab Acorus et puis dans l'entreprise, de mieux comprendre ce qui peut exister, d'imaginer des nouveaux usages. Mm-hmm. Donc on a vraiment permis aux gens de comprendre de façon concrète et pratique quels pouvaient être les apports de l'IA.
Les limites
aussi, mais ça leur permet d'imaginer des nouveaux usages et de venir nous voir pour nous dire tiens, je pense que ça pourrait me faire gagner du temps, m'être utile. Et donc on a déjà des demandes qu'on va traiter dans les prochains mois de l'équipe administration du personnel, de l'équipe comptable, ces deux équipes ayant bien compris qu'elles ont aussi du temps à gagner via l'intelligence artificielle.
Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça, Christophe Chalvin, directeur du Lab Acorus. Et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous regardent, sont dans le même contexte que le vôtre. Tout le monde veut utiliser, mais justement il faut réussir à réguler un peu ses usages et puis surtout à montrer à partir de vraiment des applications d'usage, trouver la bonne valeur. Merci d'être venu nous parler de tout ça et on va retenir vos bonnes pratiques. Allez, on enchaîne, on va continuer à parler d'intelligence artificielle, notamment dans le secteur public avec AWS.
BFM Business Partenaire.
BFM Business, Tech & Co Business, la chronique expert.
Ce sera le 3 avril, l'AWS Summit, Amazon Web Service Summit. Ce sera à Paris, au Palais des Congrès. Il y aura beaucoup de monde, des startups. On va en reparler dans un instant. Et nous recevons pour en parler Éric Jean-Varéchard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur secteur public pour AWS France et Europe du Nord. Tiens, avant de revenir sur l'Amazon Web Service, vous occupez du secteur public. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le secteur public est vraiment en train de s'approprier cette IA générative, notamment? On vient de parler à l'instant d'une ETI, hein, où voilà, on a vu comment ils mettaient tout ça en œuvre. Mais est-ce que c'est ce que vous remarquez dans le secteur public, ou alors est-ce que ça, on y va timidement?
Non, le secteur public ne fait pas exception ni à l'adoption des nouvelles technologies comme le cloud ou comme l'IA. Ils ont embrassé le cloud pour les mêmes raisons, pour la sécurité, pour les coûts, pour l'innovation. Et dans l'innovation, il y a l'IA générative. Et aujourd'hui, on a une actualité qui est assez riche,
oui.
Avec une commission IA qui a donné des recommandations au gouvernement, d'ailleurs, sur le sujet. L'une des recommandations, c'est de se former.
Oui.
La AWS Summit est une parfaite opportunité.
Oui, c'est ça. On les a eu dans l'émission Tech & Co. Hein, je vous le conseille si vous voulez revoir en replay avec Philippe Aguillon et Anne Bouvreau, donc les présidents de ce rapport, de ce comité interministériel sur l'IA générative, qui ont bien insisté. Il y a six grandes lignes directrices: la puissance de calcul, l'accès aux données, la gouvernance de l'IA, mais aussi un très très gros chapitre sur la formation, parce que c'est là où il faut insister. Et justement, la AWS Summit est là pour ça. Alors, il y a plein d'espaces. On va parler, il y a des startups, il y a un espace secteur public, il y a un village où on parlait de cloud, de sécurité, etc. Il y a l'Innovation Corner, les femmes aussi dans la tech, parce que ça, c'est un point important. Mais le but, c'est montrer qu'il faut libérer ce potentiel de l'IA. Et comment mieux le faire qu'en montrant ce que l'on peut faire et en disant aux gens, ben, allez-y, entraînez-vous, déployez-le.
C'est exactement ça. L'AWS Summit, c'est la 11e édition. Cette édition, elle sera centrée sur l'IA générative. On attend plus de 10 000 participants.
Mm-hmm.
150 présentations qui seront délivrées par nos experts, par des clients, par des partenaires, pour expliquer comment on utilise le cloud AWS, comment on utilise l'IA et l'IA générative pour gagner en compétitivité, pour délivrer de meilleurs services auprès des différents clients, des participants.
Et aujourd'hui, justement, alors on voit que les entreprises, hein, vont très vite dans l'adoption. Alors après, il faut essayer de ne pas avoir ce côté parfois un peu déceptif. C'est pour ça que je parlais de formation et d'accompagnement. Parce que si on laisse les gens avec l'outil, c'est un peu comme avec les outils bureautiques. Quoi. On va se servir de 10%, puis on va dire oui, bof, bof. Alors que là, c'est tellement puissant, alors qu'on soit avec du OpenAI, qu'on soit avec du Anthropique, qu'on soit avec du Claude. Enfin voilà, il y a beaucoup d'IA en ce moment, ou du Mistral, le chat. Comment vous voyez justement cette prise en main des entreprises ?
Alors, juste avant de répondre à cette question, ce que j'aimerais, c'est peut-être définir un parcours à l'occasion du summit,
oui,
pour les gens qui veulent s'y rendre. Tout d'abord, il va y avoir une keynote. Et dans cette keynote, on a la chance de recevoir trois des plus belles startups d'IA générative du moment, dont deux françaises.
Mm-hmm.
On va avoir Hugging Face, on va avoir Mistral et on va avoir Anthropic.
Hugging Face, c'est une sorte de magasin d'applications. Voilà, on va venir se plugger pour récupérer. D'ailleurs, il y a du Mistral dessus. Et puis Anthropic, c'est l'autre pépite avec OpenAI, voilà, que l'on suit de près puisque Amazon a investi aussi à l'intérieur. Donc on aura ces trois-là qui seront sur scène.
Exactement. On aura un Startup Loft, on en a parlé tout à l'heure. Le Startup Loft sera là également pour inspirer avec différentes présentations, avec des démonstrations. Ça, c'est réservé pour la French Tech. Ce sera le moment pour les start-upers ou ceux qui veulent entreprendre. On aura enfin le village partenaire. 80 partenaires seront présents. Démontreront le meilleur de la technologie mise à la disposition du grand public, des entreprises et des organisations publiques. Et enfin, nous aurons les différents espaces d'innovation avec des démonstrations. Tous les secteurs d'activité ou presque seront représentés, la finance, la télécommunication, le sport, beaucoup de sport cette année.
Ce panorama assez complet. Pour vous, c'est quoi, tout à l'heure, c'est la même question que je posais à Christophe Chalvin à l'instant, là, des co-innovations. Ça va être quoi le déclic, justement, pour que les entreprises, enfin, pour que chacun d'entre nous, on se forme, on se lance sur cette IA générative?
Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on vient de faire paraître un rapport sur le sujet avec un cabinet indépendant. Et ce rapport dévoile deux choses. La première, c'est qu'à peu près 25% des entreprises françaises utilisent l'IA aujourd'hui.
Mm-hmm.
La moyenne européenne, alors c'est en progression, hein, 35% de plus depuis 2022. La moyenne européenne, c'est plutôt un tiers.
Mm-hmm.
Néanmoins, le chemin jusqu'en 2030, pour que à peu près trois quarts des entreprises utilisent l'IA, permettrait de déclencher 100 milliards d'euros de valeur ajoutée et d'injecter ces 100 milliards d'euros dans l'économie française. Tout tient sur la formation. On s'engage là-dessus. On a eu un pledge, une promesse de former 29 millions de personnes au cloud d'ici 2025 et 2 millions à l'IA. D'ici 2025, on est déjà 200 000 en France.
Voilà, et bien donc, si vous voulez en savoir plus, ben, rendez-vous. L'AWS Summit, c'est le 3 avril au Palais des Congrès, donc avec non seulement AWS, mais aussi des partenaires et puis beaucoup de start-up, beaucoup de grandes entreprises aussi qui vont venir témoigner autour du cloud, enfin de ce double usage, cloud et IA générative notamment. Merci Eric Jean Varéchard d'être venu parler de tout ça. Je rappelle, vous êtes directeur secteur public chez AWS France et France et Europe du Nord. Allez, à tout de suite sur BFM. On continue à parler d'intelligence artificielle. Tiens, au service de la cybersécurité. C'est tout de suite.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
L'IA au service de la cybersécurité, mais pas que, on va en parler en tout cas avec Laurent Amar. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes président cofondateur de Franceverif.fr. Hors micro, je disais, vous avez une vie avant chez Monceau-Fleur, voilà, que évidemment beaucoup d'entre nous connaissent. Et je me dis, mais comment vous êtes devenu là? Parce que j'étais victime un jour, et puis voilà, votre par rapport à vos études et votre volonté d'entreprendre, vous ont lancé dans ce défi aujourd'hui de créer Franceverif.fr. On va voir tout de suite ce que vous faites. On va parler cybersécurité. Sécurité, parce que c'est vrai, là, on a tout. Il y a quelques semaines, c'était les 33 millions de comptes de Français via des organismes de tiers de confiance qui avaient été piratés. Alors, on ne sait pas où sont parties ces données, mais en tout cas, il y avait des données personnelles. Il y a quelques jours, c'est France Travail, l'Expo l'Emploi. 43 millions de Français, de données de Français, hein, le nom, le prénom, le contact, numéro de sécurité sociale. Alors, pas d'informations bancaires, mais quand même, ça permet de créer... Pourquoi pas des profils et usurper l'identité pour ensuite rebondir. Les JO arrivent, on va être la première cible. Alors, racontez-nous, parce qu'on voit les attaques remontent, mais racontez-nous un peu, voilà quelle a été la genèse de Franceverif.fr et comment vous intervenez aujourd'hui alors.
Alors, la genèse de Franceverif vient d'un constat. En fait, tout simplement, le problème n'était pas adressé.
Oui.
Les cyberattaques étaient en train de se démultiplier. Les cybercriminels en train de prospérer. Rendez-vous compte, en 2018, le coût de la cybercriminalité en France était de 9 milliards, visé principalement les entreprises. Nous avons passé la barre des 100 milliards, ça vise aujourd'hui principalement les particuliers. Il était prévu 130 milliards pour cette année, ils vont être très largement, malheureusement, dépassés.
Dépassés, oui.
Voilà. Donc, nous nous sommes lancés dans cette aventure, grâce au soutien d'ailleurs de l'État français. Près de 5 ans de R&D,
ouais.
43 chercheurs et data analystes, issus de Polytechnique, Corps des Mines, Pierre et Marie Curie. Donc une très grande aventure en recherche et développement, très difficile à mener, mais le résultat est là. Franceverif est la première solution permettant de protéger intégralement contre toutes les typologies de cyberattaque.
C'est-à-dire qu'on se met en une bulle de sécurité. Comment ça se passe? Voilà, je suis une entreprise, voilà, j'ai une petite PME qui fait des émissions sur le numérique, je veux comprendre un peu. Je vais voir Franceverif. Qu'est-ce que vous allez me proposer comme type de service?
Alors, Franceverif protège d'abord les particuliers, peut protéger aussi les entreprises, et vous allez être protégé par le réseau neuronal de Franceverif, qui est composé de 127 intelligences artificielles,
oui.
Et qui vont pouvoir détecter toutes les tentatives, non seulement de fraude, mais aussi toutes les typologies de cyberattaques. Donc ce qu'on appelle les piratages indirects, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire vos données sont sur le dark web, comme aujourd'hui quasiment tous les Français,
oui.
Et vous allez vous réveiller un matin, vous n'allez plus pouvoir accéder à votre boîte mail. Ça y est, c'est fini. Pour votre provider de boîte mail, ben vous, c'est plus vous. Voilà, c'est eux.
Mais c'est-à-dire, alors, comment je fais? Je vais sur Franceverif, je tape mon nom, je vois un peu où je suis. Voilà.
Exactement. Savoir... Ouais. Ça commence par ça. Vous avez totalement raison. Ça commence par un test. Vous vous rendez sur Franceverif.fr. Il suffit de cliquer sur « Je me teste gratuitement ». Et cela va vous dire si, à un moment donné, vous êtes susceptible d'avoir une cyberattaque ou pas. Mmh.
En quelques... Donc, selon votre secteur d'activité, selon votre notoriété,
les 127 IA vont retrouver quelles sont les failles, quelles sont les données sensibles, par exemple, qui sont aujourd'hui disponibles sur le dark web.
D'accord, sur nous.
Et qui vous concernent.
C'est-à-dire, si un jour je me suis inscrit à France Travail Pôle Emploi, est-ce que peut-être que mes informations circulent en ce moment avec ces 43 millions de comptes volés? Si mon organisme de tiers payant de sécurité sociale est passé par Via Midis Admiris, pareil, c'est un peu ça.
Alors, ça dépasse bien ça, parce que malheureusement, la France est le deuxième pays au monde, derrière les États-Unis, où les données les données sensibles et personnelles des Français sont le plus présents sur le dark web. Mmh. Alors, ce test gratuit disponible sur francedérive.fr va vous permettre de voir à un moment donné s'il y a des failles. Donc, vous allez pouvoir voir en quelques petites secondes s'il y a des portes d'entrée. Et en bloquant après ces portes d'entrée, bah vous évitez en réalité tout risque de cyberattaque. C'est un peu comme si la météo vous annonce une tempête. Si à un moment donné vous fermez bien vos les portes, la tempête ne rentrera pas chez vous.
Mais justement, est-ce que c'est France Vérif qui va m'envoyer vers des éditeurs de virus, d'anti-malware,
Non, les 127 intelligences artificielles, justement, vont s'occuper de tout.
D'accord.
C'est la grande spécificité de France Vérif. C'est la première IA informationnelle. Mm-hmm. On a beaucoup parlé des IA génératives. France Vérif est la première IA informationnelle avec un taux d'efficacité proche de 100%, 99,86%, et elle bloque toutes les typologies vraiment de cyberattaque, cyber-escroquerie.
On donne une sorte de radar quoi, qui tourne
totalement. Elle va tout repérer.
Permanence.
Elle va tout repérer H24, 7 jours sur 7, et ce qui lui donne la capacité justement à prévenir de toutes ces typologies d'attaques. Mmh. Elle a été nourrie pendant de longues années de milliards de données. Elle a été surentraînée.
Et alors, c'est quoi le business model ? C'est-à-dire, je vais m'abonner à France Vérif ensuite pour être régulièrement alerté quand il y a des choses.
Comme nous avons...
Et France Vérif va s'occuper automatiquement de mettre à jour toute ma barrière de sécurité.
Alors, vous avez deux parties. Vous avez une partie qui est totalement gratuite pour les particuliers. Mmh. La protection de la navigation. Sur les 2 Français sur 3 qui ont été victimes de cyberattaques, donc c'est beaucoup, hein, 2 Français sur 3, on atteint des chiffres qu'on ne pensait pas possibles il y a encore 3 ans. Votre navigation va être totalement sécurisée, gratuitement. Ouais. Donc ça ne va rien coûter du tout aux Français qui vont installer l'extension France Vérif qui est disponible sur notre site.
Oui.
Nous sommes de l'autre côté rétribués par des grandes marques et des enseignes, car nous venons aussi détecter bien les contrefaçons, les sites clones, vous voyez. Et lorsque par exemple un particulier est en train de se faire frauder parce qu'il est sur un faux site Amazon ou un faux site Cdiscount ou en train d'acheter une fausse marque, une contrefaçon, il va être redirigé vers le véritable site.
Ça veut dire que vous pourriez même être capable de nous sortir un baromètre régulièrement, de dire voilà le nombre de faux sites en ce moment, le nombre de tout ça.
Vous avez une très très bonne intuition. C'est ce que nous sommes en train de faire parce que nous avons tous les chiffres et nous avons une partie payante.
Oui.
Voilà. Où là, on va venir protéger l'ensemble des appareils d'une famille ou d'une entreprise. Donc l'ensemble des appareils, l'ensemble des personnes de ce groupe, de cette famille ou de cette entreprise. Et c'est ça qui va nous permettre vraiment de bloquer toutes les typologies de risques cyber.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Laurent Amar, président et cofondateur de France Vérif. Je ne sais pas si vous serez au Forum InCyber à Lille la semaine prochaine.
Oui, bien sûr.
Eh bien, nous y serons aussi, nous irons faire un tour là-bas, parce que c'est toute la crème de la cyber sera là-bas. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve juste après. On va parler d'intelligence comportementale au service tiens, de la lutte anti-fraude. Et puis, on aura ensuite notre débat sur l'IA générative, comment c'est un vecteur de croissance de business avec nos invités, notamment Microsoft et Amadeus. C'est tout de suite sur BFM Business.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, deuxième partie de l'émission. Dans un instant, on parlera d'IA générative au service du business avec Microsoft, avec OpenAI, avec Amadeus et une start-up qui s'appelle Millevue. Mais là, c'est avec Dominique Angot. Bonjour.
Bonjour,
Dominique. Valérie. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable France pour BioCatch. Alors, vous allez nous expliquer ce que fait BioCatch. On est dans l'intelligence comportementale au service de la lutte anti-fraude. Voilà, dites-nous un petit peu les menaces sur lesquelles vous travaillez et puis ensuite le métier justement de BioCatch.
Alors, merci de nous donner la parole cette tribune. Alors, effectivement, BioCatch, c'est une société qui a pour vocation d'aider les banques à préserver ce qu'il y a de plus précieux chez eux, c'est-à-dire leurs clients, de la fraude qui opère sur les comptes clients. Donc en fait, nous avons développé une technologie il y a plus de 10 ans maintenant qui s'inspire de ce qu'on appelle l'intelligence comportementale, qui permet d'identifier un petit peu toute une série d'éléments sur comment l'utilisateur d'un compte va opérer.
Ouais, je rappelle, vous êtes présent dans 30 des 100 plus grandes banques mondiales.
Oui, c'est ça. Il y a,
vous avez 90 brevets. Enfin, voilà, c'est une solution bien établie déjà.
Oui, c'est une start-up de 10 ans qui est déployée dans le monde entier.
Qu'est-ce qui va faire la particularité, justement, de votre lutte de
Alors, comment on se distingue par rapport aux outils qui sont déjà mis en place? C'est très simple. C'est que la majorité des outils en place regardent essentiellement sur la base des transactions. Sauf que quand la transaction est partie, c'est déjà fait, c'est trop tard, les fonds sont partis. Donc nous, on arrive beaucoup plus tôt dans le processus grâce à l'intelligence comportementale. Qu'est-ce que c'est ? On va utiliser plusieurs dimensions. La dimension physique d'abord. On est tous physiquement constitués avec, par exemple, la longueur de bras. Donc quand on va manipuler la souris, on va pouvoir calculer quels sont les angles, les distances parcourues. Si vous êtes droitier, vous allez plutôt déplacer la souris vers la droite, alors que si vous êtes gaucher, vous êtes plutôt vers la gauche. Donc on va déjà pour savoir si vous êtes droitier ou gaucher. Quand vous êtes au téléphone, sur l'application web de la banque, on va pouvoir savoir dans quelle main vous utilisez le mobile. Si vous êtes droitier ou gaucher, la vitesse de utiliser le swapping, la puissance sur laquelle vous allez être...
Donc ça veut dire qu'il y a une première phase d'apprentissage d'abord de l'utilisateur. Alors, pour comprendre un peu, voilà.
La première phase, c'est la collecte de ce qu'on appelle les signaux. Ce sont que des signaux faibles. Les signaux faibles, pris individuellement, ne servent à rien. Par contre, quand on additionne tous ces plus de 3000 signaux, on est capable de déterminer un profil de l'utilisateur.
Oui.
Et c'est ce profil-là qui va servir d'étalon si quelqu'un prend la place du profil. D'accord. Donc si quelqu'un arrive qui n'est pas le bon profil, on va tout de suite, en temps réel, détecter et alerter la banque comme quoi, attention, cette transaction qui est en cours est fortement risquée. Donc nous vous conseillons de procéder à mettre en place un process particulier pour bloquer cette transaction.
D'accord, donc les banques mettent... Elles ont un perform by BioCatch, hein, c'est ça le
Oui, elles reçoivent un indicateur, un score. On fournit un score, c'est à l'appréciation de la banque, en fonction de son appétence au risque, de déterminer si j'envoie l'opération qui est en cours plutôt sur une file d'attente, ou si je bloque, ou sinon je laisse continuer parce que je verrai ça plus tard. Ça,
c'est à l'appréciation. Qu'on pourrait pas utiliser, on recevait tout à l'heure, on parlait des. Juste avant vous, là, Laurent Amard de FranceGriffe.fr, et on parlait justement de tous ces piratages de France Travail, voilà, des données. Est-ce qu'on pourrait pas porter cette donnée sur une entreprise qui se dit, tiens, j'ai un peu le profil de tous mes utilisateurs, et dès qu'il y en a un que je trouve qui n'utilise pas correctement l'application, de se dire est-ce que c'est vraiment lui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'usurpation d'identité, etc.
Absolument, on pourrait très bien imaginer que la technologie BioCatch soit développée et portée sur d'autres segments que la banque. Aujourd'hui c'est pas encore le cas,
Il y a déjà suffisamment notre métier, avec les banques.
Les enjeux financiers sont tels en banque, je peux les rappeler si vous voulez, la fraude bancaire, selon la Banque de France, en 2022, ça représente 1,2 milliard. Et juste sur le premier trimestre 2023, c'est 628 millions. Donc, on est sur un train de x2 chaque année.
Et puis, vous avez raison, on est tous clients de banque et on voit que souvent, la solution arrive, mais après, on va nous dire, tiens, il y a un achat qui vient d'être effectué sur notre compte. Alors, en général, c'est nous, mais si ce n'est pas nous, il est déjà fait.
C'est ça. Donc, on pourrait très clairement, pour répondre à cette question, développer et porter ça sur d'autres secteur d'activité, mais chez BioCatch, on est très focus sur ce qu'on fait. On a beaucoup de travail auprès des banques. Peut-être qu'un jour, on va le faire.
Et alors aujourd'hui, vous allez quand même pouvoir être contré. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, les hackers n'ont pas attendu non plus pour utiliser cette intelligence artificielle, pour essayer de l'entraîner aussi. Enfin, il y a quand même quelques défis autour, parce que les hackers peuvent utiliser cette IA pour essayer de repérer les comportements habituels de certains utilisateurs aussi. Donc, il va falloir pousser un peu plus.
Oui, on pourrait imaginer que l'IA puisse, et c'est d'ailleurs le cas déjà, les fraudeurs utilisent, aujourd'hui les fraudeurs sont les bacs plus 5 qui savent très bien utiliser les nouvelles technologies. Aujourd'hui, la caractéristique de ce que l'on fait, c'est qu'elle porte sur des éléments à la fois physiques mais également cognitifs, et donc du coup, ces 3000 points dont je
parle. Il faudrait qu'une IA super entraînée, cibler vraiment une personne.
D'une part, et d'autre part, il faudrait que les fraudeurs et les talons
Oui, c'est ça.
Donc il faudrait qu'ils aient déjà piraté les talons dans la banque. Donc, mm-hmm. donc ça paraît très 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 compliqué.
J'imagine que derrière, pour la partie, parce que évidemment, là je suis client d'une des banques, bon, je rappelle, hein, vous équipez 30 des 100 plus grandes banques mondiales, 180 institutions financières, je suis client de l'une de ces banques, toutes ces datas qui définissent mon profil, j'ai pas envie qu'elles sortent, cette protection de data, c'est la banque, c'est vous qui vous en occupez aussi.
Alors, nous ne collectons aucune data opérationnelle. Mmh. Nous ne collectons et nous n'analysons que des éléments...
Le comportemental, quoi.
Comportementaux. C'est-à-dire le degré de variation. Donc, ce sont il n'y a aucun élément qui correspond aux éléments RGPD dont on...
Et ça veut dire, parmi les innovations, vous allez arriver, puisque maintenant, on va faire beaucoup de choses avec les gestes, avec les yeux, avec la voix. Vous allez aussi adapter dans mon profil, savoir est-ce que je cligne des yeux plus
clairement,
vite.
Clairement, on utilise certains... Je n'ai pas tout cité, parce que 3000, ça fait long à citer. Mm-hmm. Mais on utilise quelques éléments visuel, auditif, dans tout ce qui est le comportement. Donc oui, bien sûr.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça.
Avec grand plaisir.
Je rappelle, vous êtes responsable France pour BioCatch, donc pour lutter le comportement, enfin l'intelligence comportementale pour lutter contre la fraude au niveau des banques. C'était vraiment une technologie à suivre. Merci d'être venu nous en parler. On va continuer à parler d'intelligence, mais retourner dans l'intelligence artificielle générative cette fois-ci avec notre débat. C'est tout de suite. Comment créer avec cette IA générative plus de business. C'est tout de suite.
BFM Business, Tech & Co Business, le débat.
Comment faire de l'IA un accélérateur, l'IA générative notamment, un accélérateur de business. On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Corinne de Bilbao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Microsoft France et c'était il y a quelques jours un grand événement parisien. Il y en a 5 dans le monde, hein, New York, Tokyo, Mumbai, Londres et il y a Paris.
Et Paris.
Une étape, 3000 personnes, des développeurs, des gens du business sur 2 jours pour parler justement d'AI, c'est ce que ça s'appelle, le Microsoft AI Tour. Et on a appris beaucoup de choses durant ces 2 jours, on va en reparler dans un instant avec vous. Avec nous également Frédéric Ross, bonjour.
Enchanté.
Vous êtes directeur monde des services digitaux pour l'environnement du travail chez Amadeus. Et justement, vous êtes un de ces early adopteurs. Regardez le nom anglais sur Copilot Office 365. On le disait en micro, tous les services rendus. Eh bien, vous allez nous en parler aujourd'hui. Et avec nous également, Aïssa Khalifa. Bonjour.
Bonjour.
Aïssa, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de 1000vues. Vous êtes récemment intégré au Generative AI Startup Programme de Microsoft. Vous allez nous dire tout ce que ça fait. Vous êtes la startup date depuis 2018. Hein. Vous êtes une cinquantaine de personnes et vous accompagnez les radiologues, les urgentistes justement sur l'imagerie à interpréter la prise en charge des patients. On reparlera aussi de votre métier. Je vais démarrer avec vous, Corinne. Alors, on sent que l'IA générative, alors il y a une prise de conscience dans les entreprises. Je regardais quand même quelques chiffres. Alors c'est le BCG qui a sorti ça. Mm-hmm. Alors évidemment, ça booste. 95% des dirigeants autorisent la GenAI contre 52% en 2023. Mais l'implémentation reste timide. 2/3 des dirigeants sont partagés, voire insatisfaits. Je pense qu'ils ont du mal à caler un peu les cas d'usage. Et puis 90% une position attentiste, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut y aller. La chose positive, c'est que 70% vont augmenter leurs investissements. Alors, comment vous jugez justement l'adoption de l'IA générative à travers Copilot ou d'autres modèles aujourd'hui et notamment à travers tous les... Alors, il y a beaucoup de monde qui sont venus témoigner, les L'Oréal, Total Energy, qui sont venus durant ces 2 jours.
Alors, en fait, c'est une vraie révolution, on en avait parlé, une révolution qui est aussi importante, qui sera voire plus importante que celle de l'Internet. On en aurait parlé il y a un an, je vous aurais dit, voilà, c'est un engouement incroyable. Aujourd'hui, la question ne se pose plus de si on y va, c'est quand on y va.
Ouais.
Et alors, c'est marrant.
La réponse est maintenant.
Et maintenant, la réponse est maintenant. Ouais. Et maintenant, la réponse est maintenant, parce qu'en fait, il y a un nouveau motto qui dit le fear of falling behind, le FOB. C'est-à-dire que tout le monde se dit, mais si moi j'y vais pas, je vais perdre de la compétitivité, je vais être en retard, et je vais être en retard aussi sur l'attractivité des salariés qui poussent. Je crois que Frédéric va en parler, les salariés poussent. Donc on est sur les cas d'usage. On est sur les cas d'usage, on est sur les questions de comment j'y vais, comment je gère ma sécurité, comment je forme mes salariés, c'est le sujet des compétences. Et en fait, beaucoup, beaucoup d'entreprises aujourd'hui y vont. Alors, si on regarde la partie citoyen, on a fait une étude de CSI Research qu'on a publiée ce même jour-là. 73% des Français ont déjà utilisé l'IA dans un usage quotidien. Mm-hmm. Donc, ça avance. Et puis, on se rend compte aussi que les personnes trouvent que l'IA devient accessible.
Oui,
il y a 6 Français sur 10 qui disent oui, finalement, c'est accessible.
Ce qui explique son accélération. C'est un vrai
outil de démocratisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses. L'IA générative, elle a apporté deux choses. C'est d'abord la capacité à donner des instructions en langage naturel. Résume-moi un texte. Trouve-moi des informations. On est en train de régler tout le problème du knowledge management.
Oui.
Trouve-moi des informations. Voilà, je prépare l'IA Tour. Trouve-moi les briefings.
Il nous répond en langage. C'est pas
fais-moi
juste des
résumé,
liens.
Voilà, on prompte. C'est l'art de prompter, hein, de poser des questions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, d'énormes capacités de computing associées au modèle large de langage, ben, ça permet d'exploiter ces milliards de données qu'on a et dont on savait pas quoi faire. Donc ça en fait libère dans l'entreprise à la fois la productivité et d'énormes possibilités.
Alors souvent quand on évoque la frilosité, vous l'avez rapidement évoqué là, c'est le manque de compétences. Voilà, il faut des compétences. C'est la feuille de route aussi, les priorités d'investissement.
Comment on y va,
comment on y va? Est-ce qu'on trouve les bons cas d'usage? La data, on en reparlera dans un instant. L'absence de stratégie et d'IA responsable. Vous, Frédéric, comment vous avez analysé tout ça avant de justement, alors dans un environnement cadré, puisque Copilot, vous, c'est l'utilisation de Copilot Office 365. Mais justement, comment on se décide à franchir le pas?
En fait, je pense que ça fait partie de l'ADN d'Amadeus. On est par définition, on est une entreprise technologique. Mm-hmm. Donc, c'est dans notre ADN vraiment d'être early adopter. Donc, quand on a vu arriver ChatGPT, etc., il y a eu un engouement énorme en interne, à la fois d'un point de vue qu'est-ce qu'on peut faire comme produit avec, mais aussi d'un point de vue qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie.
On rappelle, vous êtes une boîte vraiment tech. Hein,
exactement.
Évidemment, en front office, c'est la réservation de voyages, etc. Mais en back office, c'est
exactement. On est à peu près sur tout. Si vous avez déjà voyagé quelque part, vous avez utilisé nos services.
Combien de développeurs en tout?
On a 18 000 collaborateurs. Je crois qu'on doit avoir 6 000 développeurs. Ah, l'investissement 2023 en R&D, c'est 20% de nos revenus. Donc, ça nous classe dans les 5 premiers, je crois, en Europe, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN. Donc, dès le départ, on s'est organisé. On s'est organisé avec un AI office qui inclut à peu près toutes les business units pour savoir. Pour gérer, d'abord pour gérer le côté éthique, sécurité, accès. Donc très vite, on a eu des choses comme l'AI policy, l'AI workplace policy pour expliquer.
Ça c'est important hein, parce qu'au début, c'est bien que les gens testent, mais voilà.
Il faut
après, s'ils sont pas sensibilisés, on va mettre des data dans tous les sens.
C'est exactement le point, c'est-à-dire leur dire voilà, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire, des choses sur lesquelles il faut demander. Donc ça a été la première chose. Derrière, on a discuté très rapidement aussi avec Microsoft sur ce qui allait être. En fait, l'investissement. Microsoft est un partenaire. Et derrière, dès qu'on a su qu'il y allait avoir Copilot, on a dit on est intéressé, on veut y être. Et on a plongé. On ne s'est pas posé de questions en fait, dès le départ.
Et là, vous, aujourd'hui, aucun doute sur la productivité, les gains en productivité et tout ça. On rappelle, hein, ça peut résumer des choses très basiques, mais on peut aller de façon un peu plus complexe dans les fonctions. Mais ça peut résumer des boucles de mails, ça peut résumer des réunions Teams. Enfin, là, il y a tout un tas
de choses. Pour nous, il n'y a pas de doute sur le temps que ça fait gagner. Et j'allais dire, même sur la partie well-being, sur le confort qu'il y a à avoir ça. Quand je suis dans un meeting et je n'ai pas à prendre de notes, mais que je suis focalisé dans ce meeting et que je peux discuter, mais que je sais que j'aurai des notes qui sont fidèles à côté, eh ben ça me permet d'avoir un meeting qui est plus productif, par exemple. On parlait du mail, effectivement. Le résumé, c'est peut-être une des fonctionnalités qui est la plus utilisée parce qu'elle est simple à utiliser. Derrière, c'est comment on amène les gens à utiliser tout le reste, comment on les amène à changer leur routine, on va dire.
Juste pour bien comprendre, comment ça, les étapes de la mise en œuvre, c'est juste un jour. Il y a une mise à jour et on a un petit bouton qui apparaît
alors,
Copilot.
Non, on l'a pas fait exactement. Ça pourrait être comme ça. Mais on l'a pas fait comme
super.
Ça.
Parce qu'il y a des fabricants de PC, ils commencent. Un peu comme on l'a sur la télécommande, sur Netflix.
Mais je pense que ça fait partie. On parlait de la démocratisation. Il faut aussi comprendre que c'est un changement pour tout le monde. Et donc, il faut entre guillemets jouer avec pour pouvoir se l'approprier. Donc, c'est une partie de ce que font les gens, mais surtout, on les accompagne sur la formation. Et pour nous, la formation est extrêmement importante parce qu'il faut. Un des buts de partir sur Copilot, c'est aussi de se dire, si on veut l'utiliser, nous, plus tard, ou même maintenant, mais dans des produits, il faut que les gens comprennent exactement comment ça marche. Il faut qu'ils l'utilisent au jour le jour. Il faut qu'on prenne les limitations et on va. Donc, ça a commencé par, tout bêtement, des trainings sur comment prompter. On a une prompt académie que les gens adorent. Et derrière, c'est vraiment la gestion d'une communauté où chacun vient exactement.
C'est important ce que vous dites, parce que sinon on peut se retrouver dans ce qu'on dit toujours, on n'utilise que 10% des fonctions de Word, que 15%, enfin Excel pour les plus pointus utilise tout, mais voilà, on risque de laisser de côté tout un tas de choses qui nous pourraient nous rendre service, et puis au final on va dire oui, bof. C'est un peu ça, auquel
il faut faire attention. En fait, il parlait tout à l'heure des meetings. Moi, la fonction que j'utilise la plus, c'est qu'on a des tas de meetings. Donc, il y en a des tas auxquels je ne peux pas assister. Donc, c'est la fonction plus, Teams. Ouais, en plus. Voir des meetings dans des heures qui ne sont pas convenables. Et donc, la fonction dans Teams de résumer du meeting. Je n'ai pas pu assister à un meeting. Je dis, résume-moi le meeting. Dis-moi les actions qui ont été prises. Est-ce qu'il y a des actions pour moi? Pour quelle date? Et donc, vous avez trouvé un assistant virtuel qui ne vous remplace pas, mais qui vous aide et qui vous soulage. Et la satisfaction des salariés, c'est un sujet qui est important, parce qu'au-delà de la productivité, on se rend compte que les conversations, finalement, avec les clients vont plus sur le sujet de satisfaction des salariés, d'engagement, que de productivité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet... Il y en a beaucoup.
Un des feedbacks de la période pilote, on avait 300 personnes en période pilote de août à, on va dire, à fin octobre. C'est difficile d'évaluer combien de temps on gagne en faisant ça. Mais le feedback général, c'était ne me l'enlevez pas. Ouais. C'était vraiment le feedback général. Et voilà. Et maintenant, on entre sur des choses où on regarde un peu plus où on gagne et sur quel use case on gagne, de façon aussi juste le dire aux gens. Vous pouvez faire ça. Et des choses, des fois, toutes bêtes. Vous pouvez donner une image et extraire le texte plutôt que de le retaper, par exemple. Ça paraît bête, mais ça fait gagner peut-être 30 secondes, une minute.
Gain de productivité aussi, Aïssa Khalifa, racontez-nous comment. Alors, vous faites partie de ce programme Generative AI Startup Programme, donc pour travailler donc avec notamment les outils Microsoft à intégrer au sein de Midvue, donc pour accompagner les médecins, hein, c'est ça, pour dans leur gain de productivité, enfin pour les aider à être plus productifs.
Oui. Dès l'origine, on a travaillé sur le workflow des radiologues, et il faut savoir que quand un radiologue interprète un examen, il y a à peu près la moitié du temps qui est dédié à l'interprétation proprement dite, donc la recherche de pathologie sur une image, et la moitié du temps qui est dédié à la production d'un compte-rendu. Donc depuis 2018, on avait en tête le fait de produire un compte-rendu automatique, on avait buté sur un certain nombre de problèmes techniques, et on a réussi à résoudre ça un peu avant le lancement du programme Microsoft. On a présenté aux journées francophones de radiologie un premier pré-compte-rendu généré automatiquement. Donc il est issu du traitement qu'on fait sur l'image, du diagnostic qu'on va être capable de porter sur l'image et qui est traduit dans un compte-rendu structuré. La question, c'était comment ensuite le radiologue peut interagir avec ça, et c'est là que les outils d'IA générative sont merveilleux. Et dans le cadre du programme avec Microsoft, on a travaillé avec les équipes de Microsoft, d'OpenAI, de Nuance, qui fait de la reconnaissance vocale, et on a simplement intégré un outil qui va permettre au radiologue de dicter une information très simple, sans même aller la positionner quelque part. Il va juste dire sur cet examen, c'est un patient de 80 ans, il est fumeur, il a 25 paquets années, il présente une toux, j'ai demandé un scanner, et le médecin prescripteur a été averti. Ça va s'intégrer automatiquement dans le pré-compte-rendu que nous, on a préparé, dans lequel on disait, il y a un nodule. Le nodule, il est situé dans la partie gauche du lobe supérieur, droit, peu importe, etc. Et donc, en 10 secondes de dictée, là où il y fallait souvent une à deux minutes, il a son compte-rendu qui est complètement finalisé. C'est fiable, on l'a testé et on le met en pilotage cette semaine chez le premier client.
Et puis, de ce que vous nous racontez, on comprend que le radiologue ne sera pas remplacé, son métier sera transformé. Et puis, c'est ce qu'on se dit, hein, deux médecins, ça ne fait pas un meilleur médecin, mais un médecin plus du digital, de l'IA générative, là, ça fait une meilleure médecine.
Alors, ça fait une meilleure médecine, ça fait un médecin qui a plus de temps pour répondre aux besoins des patients. Il n'y a pas assez de radiologues, hein. On sait bien qu'ils sont sous tension. Donc, et ça sécurise complètement l'ensemble du process, parce que, in fine, il y a toujours un œil humain qui va regarder, qui va valider. Oui. Il arrive à l'IA de se tromper. Il arrive aussi au médecin de se tromper de temps en temps. Le mélange des deux fait que le diagnostic est globalement beaucoup plus sûr.
Ce qui est intéressant, Corinne Dubé-Bahou, c'est que là, avec Frédéric et Aïssa, on a deux exemples. On a ce sur quoi les entreprises travaillent. D'un côté, le côté très bureautique au quotidien, ce qui est en train de changer, comment accélérer, comment être plus productif. On a, avec Aïssa, les tâches métiers. J'imagine que chez Amadeus, là, on a parlé de copilot, mais dans d'autres domaines. Et puis, il y a les nouveaux services qu'on pourrait imaginer. On est là un peu dans ces trois axes de travail pour les entreprises.
Oui, c'est exactement ça. Donc, il y a le copilot qui est votre copilot au quotidien. Et d'ailleurs, votre copilot, mais qui permet d'avoir une meilleure collaboration aussi. C'est-à-dire qu'on décilote aussi avec copilot. Il y a effectivement le copilot par fonction. Donc, on a un copilote pour les ventes, pour la médecine, sales copilote, qui va aider, par exemple, les vendeurs Schneider, on a parlé lors de l'AI Tour, déploiement d'un test copilote qui permet d'économiser du temps à la semaine, 2-3 heures par semaine, et qui va leur permettre d'aller voir davantage les clients. Donc ça va vous générer des réponses aux clients, vous aider dans la réponse aux appels d'offres, etc. Et puis, donc ça, c'est les copilotes par métier. Et vous pouvez créer votre propre copilote. Vous pouvez imaginer votre copilote qui est adapté à votre entreprise. Et ensuite, il y a tous les services effectivement sur Azure AI qui va permettre de travailler sur l'expérience client, la productivité, l'ingénierie.
Alors évidemment, Microsoft avec Azure derrière, mais c'est l'importance de tout ça. Frédéric, donc du coup, on voit, c'est ça, bureautique, accéléré, des tâches métiers, vous en avez. Ouais. Vous avez des développeurs, il y a des copilotes GitHub aussi, pour les accompagner, des nouveaux services. Et puis, l'importance de la data quand même. Il faut rappeler quand même que l'IA, c'est des algorithmes, de la puissance de calcul et d'une data qu'on doit...
C'est totalement ça. Enfin, le nerf de la guerre, c'est la data derrière. Ouais. Que ce soit la data métier, mais même la data, quand on parle de bureautique, même l'accès à l'information... Quelle est la bonne information? C'est-à-dire, s'il y a diversion d'une spécification ou diversion d'un document, laquelle est la bonne? Donc, ça force aussi à se reposer la question du knowledge management, de l'accès à la donnée, de ce genre de choses. Par contre, c'est un accélérateur formidable pour trouver cette donnée et pour en tirer la substantifique moelle. J'ai pas forcément besoin de lire tout un document. J'ai besoin peut-être à un moment donné juste d'une partie de ce document. Et si je demande juste cette partie qu'elle m'arrive, je gagne du temps. Mais
Aïssa, en plus vous, on est dans les données de santé. On sait que d'ailleurs il y a cette alliance avec le Microsoft qui récupère les données de santé. Enfin, il y a tout un débat, mais ça c'est un autre sujet. Mais justement,
les données de santé.
Ouais, non, pas les données de santé, mais il y a ce Health Data Hub, sur lesquels vous travaillez. Mais voilà, on est. Je reviens sur cette importance des données. Voilà, c'est ça. C'est vos données sont vos données justement, parce que ça c'est important aussi de pouvoir travailler en confiance avec ce type d'outils,
Absolument. D'abord, la première chose, c'est la précision de l'IA et du réseau de neurones en amont. Mm-hmm. Si le réseau de neurones ne produit pas des bons diagnostics, si son valeur prédictive négative est trop faible, si on fait trop de faux négatifs, etc., mettre un outil d'IA générative derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça, c'est la première étape sur la data. La deuxième étape sur la data, c'est de s'assurer que ce qu'on montre sur une image et ce qu'on dit dans un compte-rendu, c'est bien la même chose. Oui. Ça paraît évident. Ça ne l'est pas nécessairement parce qu'une IA, très souvent, elle analyse de manière séquentielle. Elle voit deux images, elle voit deux fractures sur deux images, la face et le profil. Mm-hmm. Elle a tendance à dire naturellement, je vois deux pathologies. Mm-hmm. Donc, il faut lui apprendre qu'il n'y en a qu'une. C'est un travail important de maîtrise de la data. Et si on n'a pas cette maîtrise-là, effectivement, on ne peut pas produire derrière un compte-rendu.
Et alors, on parlait de l'accompagnement, de la formation, l'importance. Ouais. Microsoft a proposé... j'arrive pas à trouver mes mots. Enfin bon, à profiter, de l'AI Tour pour justement parler de ce programme Avou IA.
Oui, Avou IA.
Et le but, c'est Avou IA.
L'année dernière, on avait fait Avou la Tech, fait Avou l'IA. Et c'est vraiment le sujet de la démocratisation de l'intelligence artificielle, avec en fait deux objectifs, augmenter les compétences de tous les citoyens. Donc on commence, il y a des micro-formations pour les demandeurs d'emploi. On va développer des micro-formations en coopération avec une entreprise qui s'appelle Kokoroé et France Travail. Il y a des certifications LinkedIn. Et puis, il y a aussi des partenariats avec des écoles et des universités, dont l'objectif, c'est de former 100 000 personnes à l'IA, avec des degrés de différents
d'aptitudes. Et on sait que c'est important, parce que le rapport interministériel sur l'IA générative d'Anne Bouvreau et Philippe Aguillon, dont ils sont les présidents de ce comité, qui était dans Tech & Co cette semaine, ils expliquent bien cet aspect formation qui est essentiel, primordial, et c'est le premier à prendre. Enfin, faut y aller tout de suite, quoi.
Absolument. Et là, on a l'opportunité finalement de démocratiser la technologie parce que l'accessibilité de l'IA avec les prompts, avec l'interface homme-machine, elle est quand même plus facile. Et puis à côté de ça, il y a aussi le sujet des petites moyennes entreprises. Oui. Donc on fait un tour de France des petites moyennes entreprises à Bordeaux, Nantes, Toulouse. On va organiser des hackathons. On a prévu d'organiser une centaine d'hackathons. Et on va publier des cas d'usage très simples que les entreprises peuvent immédiatement appliquer, un peu plug and play.
Et puis leur dire que c'est autre chose que la transformation numérique. Là, la transformation numérique, c'est déjà quelque chose. Mais là, je trouve que ce sur quoi il faut insister, c'est la rapidité. Il faut y aller tout de suite.
C'est la vitesse. Il faut pas rester derrière. Et donc, les entreprises mettent en jeu leur compétitivité.
Tout dernier mot sur le coût. Parce qu'évidemment, ça coûte. Bon, on parlait des petites entreprises. Voilà, c'est un coût. On arrive, alors vous avez dit que vous avez pu voir évaluer à peu près les gains de productivité, mais on arrive à évaluer, parce que ça c'est aussi un des critères.
Hein. C'est un des critères. On y arrive mieux maintenant. Mm-hmm. Au moment où on a décidé de partir, on n'y arrivait pas forcément. On avait l'intime conviction, on avait du mal à avoir des vrais chiffres, en fait, parce que c'est difficile. Ça repose le problème de c'est quoi la productivité, et on sait que personne ne sait vraiment y répondre. Donc derrière, c'est aussi un pari. À un moment donné, d'y aller. Et en fait, maintenant, on pense que l'investissement, c'était un bon investissement. Ouais. Et on pense accélérer sans doute. Et
d'ailleurs, je disais ça toujours dans l'étude BCG dont je parlais. 70% des entreprises vont augmenter leurs investissements sur l'IA générative, sachant que c'est le cyber cloud, enfin sur les priorités tech, cyber cloud et IA générative. Enfin, je pense IA générative ou IA en premier. Et donc, ça va s'accélérer. Le conseil que je donne toujours à la fin de ces émissions sur ces thèmes-là, c'est allez-y, testez, appropriez-vous les outils, puis vous en verrez les bénéfices, les risques aussi, certaines limites, et justement de comprendre que votre métier ne sera pas forcément, des tâches seront remplacées, peut-être votre métier si vous êtes dans certains secteurs, mais globalement, ça va vous apporter davantage de productivité et de, il faut juste réfléchir à une nouvelle organisation de son travail. Merci à tous les trois collègues de Bilbao, Microsoft, Frédéric Ross d'Amadeus et Aïssa Khalifa, Milvue, M-I-L-V-U-E, je vous le dis si vous nous suivez en radio, c'est ça, et si vous voulez regardez ce que fait Milvue. Merci à tous les trois. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM.
Tech & Co Business sur BFM Business.